Donc, aujourd'hui, en plein milieu du mois de juillet, on va se poser la question, est-il possible d'arrêter le temps? Et peut-être que ceux qui sont en vacances aimeraient avoir la recette. On va donc prendre ce passage du livre de Josué. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous le lise tranquillement. Et vous, vous l'entendez ou vous le lisez sur la feuille que je vous ai distribuée en vous posant la question, que feriez-vous de ce texte? Une fois que vous avez ce texte, que vous dit-il? Quel est l'usage que l'on peut en faire à titre personnel? Voilà, donc c'est... Non, on écoute d'abord la sainte lecture. Donc Josué, chapitre 10, les versets 6 à 15. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous de secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, et après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Il les poursuivit sur le chemin qui monte vers Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient dans la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par des pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Adjalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Bien. Alors, vous êtes seul dans votre alcôve, vous avez ce texte, vos premières réactions, et comment gardez-vous votre âme trempée de chrétien débonnaire?
C'est génial, Dieu répond à la prière.
Alors, Dieu répond à la prière, oui.
Alors, moi, je me suis demandé si on ne pouvait pas penser que c'était très, très vindicatif et très guerrier.
Oui. Donc ça, c'est la question que pourrait nous poser tout le livre de Josué, qui est le récit de l'installation en terre promise.
Moi, je le trouve extrêmement délicat.
Alors, d'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, quand on a un problème avec un texte en particulier, il est intéressant de regarder ce qu'il y a avant et après, et de prendre l'intégralité de ce texte biblique. Alors, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais je vous en parle un peu de ce texte biblique. Ce texte biblique, on pourrait, si on le lisait, se demander à quel genre littéraire il appartient. Et certains vont se dire, eh bien voilà, c'est un livre historique qui raconte l'histoire de l'entrée du peuple hébreu en Israël. Si on regarde de près comment le texte est constitué, tout d'abord, on peut constater qu'il est fait de plusieurs couches littéraires, hein, qu'il y a plusieurs auteurs qui ont mis la main à ce texte. Et lorsque l'on regarde le matériel littéraire, quels sont les mots que l'on emploie, on constate qu'il y a beaucoup de liens avec la liturgie, avec le culte, qui a donc une dimension de culte dans le récit qui est fait. Et puis, on se rend compte, quand on compare le texte avec les données de l'archéologie, que ce texte ne dit pas vrai. Au sens où, par exemple, la prise de Jéricho, si elle a eu lieu selon la chronologie des textes bibliques, selon l'ordre de la narration, donc la prise de Jéricho, ça serait vers moins 1100, moins 1200, on se rend compte qu'en fait, après les fouilles archéologiques, notamment de Miss Robinson, Mrs. Robinson, les murailles de Jéricho avaient déjà chu depuis 700 ans. Donc ça signifie que si le peuple hébreu est arrivé à ce moment-là dans la terre qui lui avait été promise selon la promesse des patriarches, en fait, Jéricho était déjà une ville sans murailles, ruinée en quelque sorte. Donc, cela nous indique que le style littéraire du livre de Josué relève en fait de l'épopée. Et l'épopée, c'est un style littéraire que l'on connaît aussi bien par la mythologie que par des récits de type guerrier ou sportif. L'Iliade relève de l'épopée, voilà. Si vous écoutez les commentateurs du Tour de France, l'ascension du Mont Ventoux, ça relève de l'épopée.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui caractérise l'épopée? C'est que on va partir d'un contenu, d'un sens, peut-être d'un fait historique, et on va le développer en exagérant. C'est ce qui caractérise l'épopée, c'est l'exagération pour souligner que ce qui a été vécu n'est pas simplement un fait matériel ou historique, mais qu'il a une dimension symbolique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé a un retentissement sur l'identité des personnes. Ce qui s'est passé a un retentissement sur le vécu des personnes. Vous voyez, ça signifie que c'est un fait marquant, c'est un fait significatif, qui change les mentalités. De nos jours, on parlerait de récits mythiques. On a eu cela, par exemple, lorsqu'après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstituer l'unité nationale. Il y a eu le récit gaulien, par exemple, qui a développé une épopée qui est un peu exagérée par bien des aspects. Par exemple, l'appel du 18 juin, n'a pas été entendu par l'ensemble de la population française. Peut-être, d'ailleurs, n'a-t-il pas vraiment été entendu. Il n'empêche que c'est l'acte fondateur. C'est à la fois juste sur le plan symbolique et c'est à la fois faux sur le plan purement historique. Dire que la France était à Londres, c'est vrai sur le plan symbolique et c'est faux sur le plan historique. Et donc l'épopée ne vise pas à faire une relation historique. L'épopée vise à donner du sens à un événement, c'est-à-dire redonner la vraie valeur d'un événement. Aussi bien l'appel du 18 juin est un événement extrêmement marquant qui a une portée beaucoup plus grande que ce qu'il fut réellement, et c'est un acte initiateur, c'est un mythe fondateur, au sens strict du terme. De même, l'entrée en terre promise est certainement beaucoup moins glorieuse que ce que raconte le livre de Josué. Il n'empêche que un moment où pour le peuple hébreu, il s'agit de penser non pas l'entrée en terre promise, mais le retour d'exil en terre promise. Il s'agit de s'interroger sur la manière dont on va être une communauté nationale et comment on fait pour s'installer. C'est un peu long comme contexte, mais c'est important pour se dire qu'il ne s'agit donc pas d'imaginer que l'auteur biblique avait en tête de faire un récit journalistique. Quoique les journalistes exagèrent quand même beaucoup. Ça, c'est une chose. Et juste, je finis par rapport à l'aspect belliqueux de Josué. On a souvent, effectivement, l'impression que ce sont les guerres de l'Éternel, que c'est épouvantable. Bon, effectivement, c'est épouvantable. Hein. On passe tout le monde par le fil de l'épée, on ne laisse aucun survivant, on saccage tout. Je dirais qu'il y a une fonction politique à cela, à l'interdit, le RRM. Mais quand on regarde dans les détails du texte, on voit qu'en fait, les frontières elles-mêmes bougent. C'est-à-dire qu'il faut lire aussi le livre des juges. Et dans le livre des juges, curieusement, des rois qui étaient censés avoir été assassinés dans le livre de Josué sont encore bien vivants et font des tractations avec les fils d'Israël. Ça signifie qu'il faut tenir compte aussi de ces tensions au sein du texte. Ouais.
Je reviens au temps. Donc, le fait que le soleil s'arrête quand il fait très chaud, je pense que c'est une impression qu'on a tous ressentie un jour ou l'autre. Mais là, le texte dit que ce n'est pas une impression, puisqu'il y a la lune. Et avec la lune, il rentre justement dans ce que vous dites de l'épopée, puisque la lune sur Adjalon, pendant que le soleil est sur Gabaon, je ne sais pas si c'est très loin, mais...
Je vous ai préparé des cartes.
Ce n'est pas très vraisemblable. Donc, que signifie le fait qu'il y ait les deux luminaires? Je pense que ça a un sens important.
Oui. Alors, je vous fais passer des bouts de cartes. Comme ça, on va pouvoir localiser un peu les lieux. Hop. Vous prenez une carte pour personne. Ça va vous mettre un peu la topographie.
Les luminaires, ça nous renvoie à la création.
Oui. Oui, absolument. Le fait qu'il y ait le soleil et la lune, ça renvoie effectivement au récit de la création. Et à la question du jour, d'ailleurs, du jour au sens de la journée. Donc, vous avez ce dessin qui reprend les principaux lieux. Donc, vous voyez au milieu, en bas, la mer morte. C'est en anglais, mais vous allez vous en sortir. Et juste au-dessus de la mer morte, vous voyez Gilgal. Gilgal, c'est le lieu, le premier sanctuaire. C'est là où les fils d'Israël entrent en Josué 3. Ils passent le Jourdain à ce moment-là. Donc c'est le premier sanctuaire, c'est le lieu fondateur. Ensuite vous voyez Jéricho qui est vraiment juste à côté, ça tombe bien, c'est la première ville qui est prise ensuite. Et toujours sur la même ligne, si vous continuez sur la gauche, vous voyez qu'il est écrit Gibeon, et en fait c'est Gabaon. C'est les gens de Gabaon dont il est question. Si vous continuez encore sur la gauche, vous arrivez à Adjalon. C'est là que l'on situe la lune. Et si vous descendez, en dessous vous trouvez Makeda, et en dessous vous trouvez Azekah. Makeda et Azekah. Et ce qui est frappant, c'est que Makeda et Azekah, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, mais on a retrouvé ce qu'on appelle des ostracas, c'est-à-dire des bouts de poterie, sur lesquels on écrivait. Quand on cassait une poterie, on se servait de ces tessons pour rédiger. Et on a retrouvé des tessons, donc des ostracas, sur lesquels on a en fait la chute de ces villes au moment de l'invasion. Et en fait, il y a quelqu'un qui est à Lachish, c'est encore une ville plus basse, et qui voit que les villes sont en train de tomber, Azekah et Makeda et Azekah. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il repère que les villes sont en train d'être submergées par l'envahisseur.
Et donc, des villes ou des petits villages?
Oui, des bourgs. Oui, c'est... De toute façon, vous voyez, on est l'ère avant notre ère. Donc, c'est modeste. Mais ville par rapport à juste une ou deux maisons, avec des fortifications en tout cas. Et donc, je trouve que c'est un indice supplémentaire sur le fait que le récit dont il est question dans Josué ne parle pas tant de l'entrée en terre promise que du retour d'exil, là aussi. C'est-à-dire que on reprend cette histoire où des villes tombent et on retourne l'histoire. Comment est-ce qu'on va réinvestir ces villes? Comment est-ce qu'on va chasser l'ennemi jusque dans ces lieux où c'est nous qui avons été chassés? Je veux dire par là que c'est exactement ce qu'ont fait par exemple les Américains en Irak. Les images de la reprise de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, c'est en fait le négatif de la chute de l'ambassade à Téhéran quelques années plus tôt. Oui. C'est comme si on reprenait le dessus d'une histoire qui nous a échappé. Donc ça, c'est pour une lecture, je dirais, à caractère politique. Maintenant, on va s'intéresser sur la question de l'astrophysique, de la physique.
Est-ce qu'on peut rester sur l'historique?
Ouais.
Bon, ça m'a échappé, mais quand est-ce qu'on date cette histoire?
Alors, il semblerait qu'on puisse avoir sur l'ensemble de Josué, les parties les plus anciennes, ce serait, disons, du temps de Salomon, C'est le moment où on commence à avoir une institution centrale, une administration centrale avec des scribes. Donc ça, c'est vers moins 1000. L'histoire de Josué, elle se passerait en moins 1200. Mais l'essentiel, ce serait ce qu'on appelle la couche deutéronomiste. Et la couche deutéronomiste, elle est juste avant l'exil. On commence à la dater au moment du roi Josias avec la réforme. Vous savez, c'est ce roi qui, à un moment donné, fait un peu le ménage dans les poubelles du temple. Et il retrouve la loi. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle Deutéronome, parce que c'est deuxième loi. Et la couche de Deutéronomie, c'est à la fois ce qui produit le livre du Deutéronome, et c'est toute cette réflexion sur mais comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à la chute du royaume ? Comment on en est arrivé à ce que l'institution royale soit vidée de sa substance ? Et donc c'est une réflexion à la fois sur, disons, le péché, pour parler de la faute au sens religieux, mais aussi du rapport qu'il y a entre Israël, la dimension politique et la fonction prophétique. C'est pour cela qu'il y a des prophètes qui se lèvent. C'est pour ça que Deutéronome est assez critique sur le sédentarisme, sur l'institution royale. C'est la couche deutéronomiste qui fait dire aux prophètes, à ce peuple qui veut devenir une nation, « Ah oui, alors donc vous voulez avoir un roi comme les autres, qui prendra vos enfants, vos chevaux, etc. » Bon, bref, vous voulez vous soumettre comme les autres peuples plutôt que de rester un peuple libre, en fait.
C'est la servitude volontaire.
Ouais, ouais. C'est le contrat social avant l'heure.
C'est bien du temps de Moïse,
ça. Non, c'est bien postérieur à Moïse et puis le temps de Moïse. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a le personnage Moïse, qui est effectivement le successeur. Pardon, il y a le personnage Josué, qui est effectivement le successeur de Moïse. Mais considérer que c'est Josué qui rédige le texte, ce serait contraire même à ce que dit le texte, puisque le texte parle de Moïse à la troisième personne d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas, quand on dit le livre de Josué, c'est pas le livre par Josué, c'est le livre qui parle du temps de Josué.
Oui, tous les récits
sont
jamais les personnes
qui
le sont. Donc pour vous, Moïse serait parti sur un texte de...
Dans la narration, c'est comme cela qu'on peut l'envisager. Mais quand vous me dites Moïse serait parti sur Ramsès II, vous voyez, vous m'obligez presque à vous donner une mauvaise réponse parce que ça suppose, dans votre question, que Moïse est un personnage historique. Qui en soit peut-être aussi interrogé. Voilà. De même que Josué, qui est d'abord Osé et qui devient Josué. Et Josué, c'est Jésus en fait. Yoshua, c'est Jésus en grec. Et donc, c'est le même nom. Et c'est intéressant parce qu'on peut se demander en quoi Josué et Jésus ont une mission commune. Et on peut se dire, bon, ça déborde la question d'aujourd'hui, mais Josué est celui qui fait entrer en terre promise, ce qui est une façon de parler de la mission de Jésus, qui est de faire entrer dans le royaume. C'est l'idée selon laquelle il y a quelque chose d'accessible d'ores et déjà. Mais ça, c'est une autre question que celle qui nous occupe, pour le moment. Avec la question du temps, quand même. La question du temps. Alors, vos réactions par rapport à cette question du soleil arrêté. Donc, on a eu une hypothèse, c'était avec la dilatation, enfin, la création. Il y a un rapport avec le récit de la création, Genèse 1. Quelles sont les autres façons d'interpréter cela ?
Ça fait une éclipse.
Ça fait une éclipse. Mais une éclipse, ça bouge.
Oui, mais enfin bon, ils ont arrangé aussi l'histoire.
Très bien. Soyons créatifs. Ouais. C'est vrai, c'est possible. D'accord. Si ce n'est qu'on ne parle pas d'alignement du soleil et de la lune, là. Quand même. Il y a deux méridiens différents, là. Vous voyez, il y a... D'un côté Gabaon et de l'autre côté il y a Ajalon. Ok. D'autres idées, d'autres hypothèses ?
C'est un arrêt, c'est une suspension des choses.
Oui. Mais je dirais physiquement, comment on s'en sort ? D'accord. Donc ça c'est la... Ah, d'une version symbolique, c'était autre chose. Parce que quelqu'un comme Martin Luther, par exemple. Martin Luther, donc un réformateur estimable, spécialiste dans les Écritures, et puis à une période où les affaires Copernic et Galilée battent leur plein quand même. Donc voici ce qu'écrit Martin Luther. Ainsi va le monde aujourd'hui. Quiconque veut être habile ne doit pas se contenter de ce que font et savent les autres. Le sot, donc S-O-T, le sot veut changer tout l'art de l'astronomie. Mais, comme le dit la Sainte Écriture, Josué commanda au soleil de s'arrêter et non à la terre. Ça signifie que dans le débat, est-ce qu'on est dans un système géocentrique ou héliocentrique, Martin Luther prend clairement fait et cause pour le système géocentrique. C'est-à-dire, la Terre est au centre de l'univers et c'est tout qui tourne autour. Donc, dans une certaine mesure, Martin Luther fait partie de ceux qui accréditent la thèse de ce texte, le prennent au sérieux, contre Copernic.
Mais c'est pas pour ça qu'il a raison.
Mais on est bien d'accord. C'est pour vous dire une tradition d'interprétation. Et ça fait quand même... ça s'est assez répandu, cette tradition-là. C'est la tradition quand même classique dans le christianisme jusqu'à l'époque des Lumières. Voltaire. Voici ce qu'écrit Voltaire. Grotius. Donc, Grotius, c'est le protestantisme nord de l'Europe... Grotius prétend que le texte ne signifie pas que le soleil et la lune s'arrêtèrent, mais que Dieu donna le temps à Josué de tuer tout ce qui pouvait rester d'ennemis avant que le soleil et la lune se couchassent. Donc vous voyez, on est dans une interprétation d'ordre symbolique là en fait. C'est-à-dire que le soleil et la lune ne s'arrêtent pas, mais Dieu donne le temps. Comment fait-il ? On va voir. Le clerc, donc c'est Voltaire qui parle de Grotius, le clerc décide nettement que le soleil ne s'arrête pas, mais parut s'arrêter. Hein, vous parlez du fait qu'on puisse avoir la sensation que ça s'arrête. Mais tous les autres commentateurs, parmi lesquels nous ne comptons point Spinoza, toujours Voltaire qui parle, conviennent tous que le soleil et la lune s'arrêtèrent en plein midi.
Même Spinoza ?
Non, justement, ils ne le comptent pas parmi. Les profanes remarquent que Bacchus avait déjà fait arrêter le soleil et la lune, et que le soleil recula d'horreur à la vue du festin d'Astrée et de Thieste. Les physiciens ont quelque peine à expliquer comment le soleil, qui ne marche pas, arrêta sa course, et comment cette journée qui fut double des autres put s'accorder avec le mouvement des planètes.
Est-ce qu'on est obligé de rationaliser à ce point ?
Je sais pas, dites... La question est de savoir si cet événement est reproductible, en fait. Et s'il ne l'est pas, pourquoi ? Et vous allez voir qu'il va y avoir une incidence forte, quand même, sur les mentalités. Mais c'est comme pour la question de tout miracle. La question est de savoir ce qui s'est passé et surtout ce que le texte veut dire. Parce que si on considère que le texte est l'un des fondements de notre foi, ça signifie que dans notre vie quotidienne, il a des choses à nous dire, à nous apprendre, à nous révéler. Donc il ne faut pas se tromper sur l'enseignement que ce texte veut apporter. Si ce texte dit que les lois de la physique peuvent être suspendues, ce qui a été vrai à un moment donné pourrait peut-être l'être à un autre moment pour une situation qui mériterait de l'être. Alors, le texte semble, en fait, disqualifier cette hypothèse-là, puisqu'il finit ainsi. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. C'est, vous savez, comme avec l'histoire du sacrifice demandé à Abraham au sujet de son fils Isaac. C'est comme s'il y avait un texte qui permette de neutraliser une façon de faire ou une façon d'envisager les choses. C'est comme avec le déluge. Dieu se dit que plus jamais il ne ferait tomber un déluge sur la terre et que du coup il mettrait un arc-en-ciel, etc. C'est comme si on disait, eh bien voilà, cette façon de faire n'est plus envisageable. Ça ne veut pas dire qu'en fait elle ait eu lieu. Ça veut dire qu'en tous les cas, il ne faudrait pas imaginer qu'elle puisse à nouveau se réaliser. Parce que, vous voyez, si on rapporte la question du miracle à des choses qui peuvent être plus sensibles sur la question de la maladie ou même de la mort, on peut se dire, mais moi qui suis concerné au premier chef par une situation de maladie ou autre, je veux qu'un tel miracle arrive pour moi, il me soit bénéfique. Pas de raison que j'en sois exclu, puisque dans le texte biblique. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être précis sur ce que le texte biblique dit et veut dire. Parce que quand on le rapporte à nous, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions qui seraient extrêmement préjudiciables. Alors, il y a eu une hypothèse en 1943 pour expliquer le fait que le soleil se serait arrêté, au sens où on aurait eu l'impression que le soleil se soit arrêté. C'est un travail de météorologie. Quelqu'un qui s'appelle Bosler, B-O-S-L-E-R, il écrit en 43. Et au fond, il explique que il ne faut pas oublier qu'avant, il y a des grosses pierres qui sont jetées. C'est pas des pierres qui tombent du ciel, au sens littéral du terme. Elle dit qu'elles ont été lancées depuis les cieux. Juste pour vous rendre un petit fouet. Donc, il fait l'hypothèse, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de pluie de météorites ou quelque chose comme cela ? Et il dit, qui dit pluie de météorites, dit poussière de météorites en suspension dans la haute atmosphère. Et qui dit poussière en suspension dans la haute atmosphère, dit support pour pouvoir refléter plus longtemps la lumière du soleil, même quand le soleil continue sa trajectoire. Donc c'est l'idée que la luminosité aurait duré au-delà du cycle journalier classique.
C'est une hypothèse ou il pense qu'à cette époque-là, il y avait des météorites ?
Eh bien, il se dit que dans la mesure où il y en a encore aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas eu par le passé. Je crois que c'était un constat qui a été fait au milieu du 19e siècle en Europe centrale. Il y avait une pluie de météorites et c'est cela qui avait permis de réaliser que la luminosité durait plus longtemps. Mais avec une densité de chute telle que ça n'aurait pas fait de mort. C'est-à-dire. Non, mais au 19e siècle, ça n'a pas tué les ennemis. C'est parce qu'il n'y avait pas d'ennemis non plus d'ailleurs. Mais grosso modo, c'est vrai qu'on n'entend pas trop de décès par météorites, enfin, même par des grêlons, quoi. Donc ça, c'est une tentative scientifique pour expliquer un phénomène qui est assez irrationnel. Il y a une autre façon d'aborder les questions, c'est la thèse fondamentaliste, c'est on veut sauver le texte à tout prix, et on veut montrer que le texte a non seulement raison, mais il a raison contre les scientifiques, et que le texte biblique en sait plus que les scientifiques. 1969, donc juste après Armstrong sur la Lune, et pas en haut du Mont Ventoux. Je trouve, Neil Armstrong a été dopé lui aussi. Alors, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est pas un trucage Armstrong qui marche sur la Lune ? Comment est-ce qu'on peut savoir que Armstrong sur la Lune, c'est pas quelqu'un qui est dans les studios d'Hollywood pour faire la propagande des États-Unis ? Hein ? Ça peut se reconstituer. Des petits fils. Vous savez, actuellement, on utilise des filins pour que dans les films, les gens fassent des bons. C'est Umberto Eco qui trouve la solution. Comment est-ce que, sur le plan épistémologique, on peut accréditer le fait que les Américains ont bien été les premiers à marcher sur la Lune ? Parce que les Russes n'ont pas démenti. Très bien, vous avez retenu. Parce que dans ce moment de la guerre froide, si ça avait été un bluff des Américains, on pensait bien que les Russes qui, eux, avaient tout intérêt... Enfin, les Soviétiques qui avaient tout intérêt à démentir... Et qui avaient les moyens d'observation, hein. Je veux dire, c'est eux qui ont lancé le premier homme dans le cosmos, etc. Et ils auraient dit, non, là, ça marche pas. Ils n'ont pas démenti, c'est que ça a vraiment eu lieu.
Ben voilà, c'est facile à trouver.
Ouais, mais bon. Hein. Bon, enfin, donc, c'est parce que vous posez la question du film. Et donc, fin 69, il y a une nouvelle hypothèse qui tient à la chose suivante. La NASA a besoin d'imaginer ce que sera la position des astres dans les 100 et même 1000 années à venir par rapport au lancement des satellites, de façon à ce qu'il n'y ait pas de collision, notamment avec le Soleil ou autre. Et alors, du coup, comme ils doivent déterminer avec exactitude les positions de tous ces astres, il y a les programmeurs de la NASA qui font leur travail, ils donnent toutes les formules qui vont bien au calculateur, toutes les coordonnées célestes, ils donnent les trajectoires, etc. Et ils en profitent pour remonter le cours des siècles, vous voyez, faire une sorte de machine en arrière pour voir un peu comment les astres étaient placés au préalable. L'idée, c'est aussi que ça permet de remonter peut-être à l'origine. Enfin bon, vous voyez, une petite sensation là. Et alors, ce qui est raconté, c'est qu'à un moment donné, la machine se bloque. Le calculateur se bloque. Bug. Voyant rouge, tout ça. Et alors pourquoi ? Il faut que je lise mes notes parce que bon. Donc les programmateurs regardent, la machine fonctionnait parfaitement. Mais il manquait une journée sidérale dans le déroulement des moments passés, des temps passés. Et c'est alors qu'un membre de l'équipe se souvint de l'histoire de Josué. En reprogrammant la machine pour en tenir compte, le désaccord fut réduit à 40 minutes. La machine qui se rend compte qu'en fait, il manque encore 40 minutes. Et là, le même qui avait bien travaillé à l'école du dimanche, il trouve l'explication des 40 minutes en se rapportant au deuxième livre des rois, chapitre 10, versets 9 à 11. Je vous y emmène. Deuxième livre des rois, chapitre 20, pardon. Deuxième livre des rois, chapitre 20, versets 9 à 11. Donc c'est Ézéchias qui avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira ?» Ézéchias est malade. « Et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. » Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de chose que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors, Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Et 10 degrés, ça fait 40 minutes, selon les estimations. Donc, la NASA retrouve ses 23 heures et 20 minutes, plus les 40 minutes. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été largement relayé dans les années 70, et notamment par un certain Harold Hill, consultant de la NASA. Et puis il concluait en disant que Dieu avait donné là une leçon aux hommes de science. Et puis il y a des journalistes qui sont allés voir la NASA et qui ont interrogé la NASA sur leur consultant. Et en fait, ils ne le connaissaient pas. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a une légende qui s'est créée autour d'une hypothèse avec la NASA qui n'a jamais fait ce genre de recherche, parce que ça ne servirait pas forcément à grand-chose de connaître la position, mais admettons qu'on recherche, il n'y a aucune raison qu'il y ait un bug. Parce que il ne peut y avoir, disons, qu'un conflit que dans la mesure où on compare un calcul de l'ordinateur à une situation réelle. Or, la situation réelle du passé, on ne la connaît pas. Donc, l'ordinateur ne pouvait que travailler tranquillement sans aucun obstacle. Donc, l'ordinateur était absolument incapable de dire qu'il manquait une journée. Oui. Donc, propagande. Donc, vous voyez, c'est la perspective de certaines personnes qui veulent sauver le texte biblique et, en plus, le sauver contre la science.
Ouais, peut-être,
un peu. Bien. Par rapport à ce qu'on vient de débroussailler un peu, est-ce que des idées germent chez vous sur l'intérêt de ce texte ?
Qu'est-ce que ça nous dit, ce texte, quand le temps pourrait s'arrêter ?
Alors, on peut se dire le temps pourrait s'arrêter. Donc là, on serait quand même plutôt dans l'hypothèse où, à supposer qu'on transpose, on n'est plus dans un système où c'est la Terre qui est au centre et le Soleil qui tourne autour. Eh bien, le Soleil qui est au centre et la Terre qui tourne, on pourrait se dire, ça se fige. On peut s'intéresser sur les conséquences quand même au niveau physique. Parce que si le Soleil et la Lune se figent, mais que le reste continue à tourner, ça pose, comme qui dirait, quand même un léger problème pour l'équilibre de l'ensemble. Évidemment, si c'est la Terre qui s'arrête de tourner, ça pose aussi un petit problème gravitationnel. un léger. Mais, à la limite, c'est pas forcément le plus compliqué. Le plus compliqué, à mon avis, c'est de la faire redémarrer. Vous imaginez un peu ? Parce que, encore, l'énergie perdue, bon, soit. Mais pour relancer le système, il faut quand même y aller. Hein. Voilà. Pensez le jour où votre batterie de voiture est à plat et qu'il faut la pousser. Hein, déjà, c'est pas triste. Donc, que le temps s'arrête.
Oui, le temps s'arrête. Je pense que tout le monde a ressenti ça lorsqu'il est midi au soleil.
Oui.
Il y a la campagne, par exemple, qui fait chaud pendant ce moment. Mm-hmm. Rien ne bouge, les oiseaux ne chantent plus. Mm-hmm. On a l'impression que tout s'arrête.
Ouais.
Je pense que tout le monde a ressenti ça.
Hein. Ouais. Sauf que là, ils ont zigouille dans tous les sens. Hein. Là, c'est à qui mieux. Et là, on met des drapeaux japonais sur le cockpit des corsaires parce qu'on les aligne les uns après les autres. Donc, effectivement, il y a cette expérience, mais cette expérience que vous dites, elle peut être intégrée dans une autre expérience qui est celle de la guerre, peut-être. De la guerre. Là, on est en plein registre de la guerre. Hein. C'est Milrama. Oui. Le principe de la guerre ici, c'est l'extermination. Alors, on peut se dire à quel point c'est scandaleux, barbare, etc. L'idée est la suivante, c'est que l'extermination, la loi du RRM, c'est qu'on ne s'enrichit pas en faisant la guerre. Donc l'idée, c'est qu'on détruit toutes les richesses, y compris les populations, de façon à ne pas s'enrichir avec les biens qu'on récupérerait, qui doivent être voués à l'éternel, ni en réduisant en esclavage les vaincus. Ce qui peut laisser penser soit qu'effectivement c'est extrêmement cruel, soit que c'est une façon de dire que une guerre menée pour un enrichissement personnel ou national est illégitime. Et que la question n'est pas est-ce que les Hébreux ont vraiment zigouillé tout le monde, mais de quel enseignement sur la guerre les textes bibliques sont-ils porteurs ? Et l'un des enseignements, c'est en tout cas pas de guerre pour obtenir ceci ou cela en échange. Alors là, il n'y a pas de lien avec le soleil, c'est juste le lien avec que tout le monde y passe. Mais il a été dit qu'il y avait peut-être un lien avec le récit de la création dans Genèse 1, où le soleil et la lune sont désignés ensemble pour rythmer les jours et les nuits. Et c'est un texte, Genèse 1, qui est construit sur le principe de un jour. Et chaque jour, quelque chose de différent. Si on reprend cette idée de Genèse 1, à chaque jour, on accomplit un projet, une tâche. Est-ce qu'on peut le réinjecter dans ce texte-là ? Ouais. L'idée, c'est que tant que ce n'est pas fini, la journée n'est pas finie. On s'était dit cela, hein, c'est que c'est quand l'action est achevée qu'on peut dire que la journée est finie. Et du coup, on s'était dit, dans le récit de Genèse 1, un jour ne désigne pas 24 heures, il désigne une tâche, une mission. Et est-ce que ça peut vous faire penser à quelque chose d'autre, cette fois dans le Nouveau Testament ?
Oui.
une succession de signes aussi, notamment. Alors moi, je pensais justement pas au lendemain, parce qu'il n'est pas question du lendemain ici, au contraire. C'est plutôt l'aujourd'hui. Le lendemain, justement, on ne s'en préoccupe pas du tout. C'est l'aujourd'hui qui est complètement investi et habité. Ça vous fait penser à un petit quelque chose, non? Ouais, exactement. C'est Matthieu chapitre 6. C'est avec l'histoire des oiseaux et des lys des champs. Matthieu 6, verset 25 et suivant. Je vous le lis assez rapidement pour que vous l'ayez à nouveau en tête. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. C'est-à-dire, ne livrez pas la bataille pour ça, je m'en charge. Et c'est exactement ce qui se passe dans le livre de Josué. Ce n'est pas le peuple qui mène la bataille, c'est Dieu qui mène la bataille. Ce qui est une façon pour moi de vous mettre sur la piste que ce n'est peut-être pas aussi guerrier dans le sens soldatesque qu'il est peut-être question de guerre, mais ce n'est pas forcément contre un ennemi humain. Ou en tous les cas contre un adversaire qui serait le barbare qui se tient à nos portes et qui vient cette fois jusque dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que vous pouvez ajouter un jour à votre existence comme ça, par votre inquiétude? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant. Je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Sa tâche. Chaque jour suffit sa tâche, sa peine. De quoi est-il question dans ce texte de Matthieu 6, versets 25 et suivants? C'est de notre problème qui est de ne pas vivre le temps présent. C'est la personne qui rentre du travail et qui est encore au travail, en fait, et qui n'est pas avec sa famille. Ou alors c'est le collégien qui est en cours d'anglais, mais qui est en train de faire les exercices de maths du cours suivant, et qui du coup ne profite pas de la leçon d'anglais du moment. C'est-à-dire, c'est notre incapacité parfois à être vraiment avec les autres dans un temps, hein, et toujours à se préoccuper, etc. Voilà, une sorte de fuite du temps. Et là, il semble qu'il y ait peut-être une densification du temps présent. Mais avant de vous livrer mon hypothèse de compréhension, je vais vous rendre attentif à un détail de traduction. Parce que c'est bien gentil cette histoire du verset 12 où on dit « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Adjalon ». Mais le verbe « arrêter », c'est le verbe « damam ». Oui, j'aurais peut-être pu vous le souligner, mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas pourquoi je vous ai mis le texte hébreu, ça, vous n'êtes pas forcément pour ce coup-ci. Mais bon, en tous les cas, vous l'avez, si vous voulez voir ensuite. Je vous ai mis les versets les uns en face des autres, bon. Damam, c'est effectivement arrêté, mais en fait, le plus souvent, c'est taire. Taire au sens de se taire, réduire au silence. Et en fait, c'est souvent traduit comme cela. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que à la fois, il faut garder cette idée que le texte porte bien l'arrêt, mais silence, ça veut dire que le soleil ne dit plus rien. Et vous voyez, ça rejoint votre idée qu'il y a un lien avec Genèse 1, la création. Parce que le soleil est d'abord un signe, c'est quelque chose qui communique. L'un des intérêts de Genèse 1, c'était que les astres ne sont plus des divinités, ils sont des signaux qui permettent de rythmer le temps. Donc, ils ont quelque chose à communiquer. Or, là, ils ne disent rien. Ça signifie qu'on ne tient plus compte des signaux. Et quand est-ce qu'on ne tient plus compte des signaux ? C'est lorsque, justement, on gagne en densité de temps. Vous voyez, on est dans le moment et on regarde même plus sa montre. Je vais prendre des exemples très concrets pour bien comprendre de ce dont il peut être question. Pour vous essayer de bien vous le faire comprendre, je vais prendre un verset d'un psaume. C'est le psaume 84, le verset 11 du psaume 84. C'est ce passage qui, à mon avis, est la meilleure clé de lecture. Psaume 84, verset 11. En une phrase, tout est dit. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Ça signifie que, en termes de qualité, une journée vécue en présence de l'Éternel a la même valeur que mille années. Vous voyez, c'est le rapport de un jour à mille ans. Un jour en présence de l'Éternel vaut mille années vécues autrement. Est-ce que ce n'est pas l'expérience de tout amoureux qui voit bien à quel point le temps file en présence de l'être aimé et à quel point le temps ne passe pas en son absence. C'est-à-dire qu'il y a une relativisation du temps. C'est ce que certains appelleront le temps psychologique, probablement. Mais pourquoi est-ce que je m'autorise à parler du temps psychologique et du ressenti, comme vous l'avez fait d'ailleurs par rapport à l'impression que l'on a quand on est à midi au soleil? C'est parce que justement, il y a ce double sens du verbe damam qui signifie terre. Et terre, c'est donc communiquer. Et communiquer, c'est être au bénéfice d'une communication. Donc c'est être au bénéfice d'un sens qui nous est donné. Et là, quel est le sens de cela? Eh bien, le sens, c'est que ça dure. Ça dure. Il faut que je vous le dise, comme ça fait partie des petits bonheurs à partager. Lorsque j'étais pasteur à Marseille, on faisait la catéchèse parfois avec plusieurs collègues, donc plusieurs paroisses. Et un jour, on emmène tous les catéchumènes dans un culte qui dure 2h30, 3h. Nous, on avait l'habitude de faire des cultes d'une heure. Plus de 2h30, 3h, communauté africaine, beaucoup de chants, beaucoup de paraphrases bibliques, tout ça. Et à la fin, on interroge catéchumènes pour savoir comment eux avaient ressenti ça. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, les catéchumènes? Que c'était bien parce que ça avait duré moins longtemps que d'habitude. 2h30, là, avait duré moins qu'une heure avec nous. Bon, alors, vous voyez, au niveau de l'unité, c'est bon. Ça relativise beaucoup de choses, et notamment le temps. Notamment le temps. Bon, on verra ça.
La sérénité, c'est l'arrêt du temps par rapport au soleil.
Alors, c'est peut-être pas en termes de sérénité, mais je dirais en termes de densité et en termes de qualité aussi de ce qui y est vécu. Mais je prends un autre exemple. Les repas d'affaires. Vous voyez, c'est le monde le plus profane. En 1975, un repas d'affaires durait en moyenne 2h38. En 2001, il durait 1h25. Pourtant, ça reste un repas d'affaires. Et on peut imaginer que dans ce laps de temps qui est différent en plan quantitatif, il y a eu la même qualité. C'est-à-dire que si le repas ne dure plus que 1h25 ou 1h15 peut-être maintenant, bah c'est parce que tout ce qui était à faire a été fait. Avant, on avait d'autres façons d'atteindre notre objectif. On prenait peut-être plus de temps, etc. Mais il n'empêche que si le repas d'affaires s'arrête au bout d'1h15, c'est parce qu'en 1h15, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc, la tâche est plus ou moins longue. Il paraît qu'en 15 ans, la vaisselle a gagné, enfin, est plus longue de 10%. Vous voyez, comme ça, quelques indices. On peut voir le temps que l'on consacre à ceci ou à cela, et ça évolue au fil du temps. Or, on n'a pas l'impression que la vie change fondamentalement. On fait ce qu'on a à faire. Je reprends un autre exemple, et cette fois en liant au contexte. On a un contexte clairement militaire, guerrier. On a personne qui va en réchapper. Deux choses à dire là-dessus. C'est tout d'abord, vous savez très bien ce que cela signifie. Mais on ne pense pas à faire ces connexions-là. Pour vous mettre sur la piste, est-ce que ça a un sens de dire à quelqu'un qu'il est très à l'heure ? Est-ce qu'on peut être plus à l'heure qu'à l'heure ?
Non.
Est-ce que ça a un sens d'être très à l'heure ?
Ça veut dire qu'on n'a pas fait attendre.
Oui, mais quand on est à l'heure, on ne le fait pas attendre non plus, a priori.
Ça n'a pas tellement de sens.
Ça n'a pas tellement de sens. Pourtant, il y en a... Enfin, moi, j'ai des enfants qui disent même « j'étais méga à l'heure ». T'as vu, j'étais méga à l'heure aujourd'hui, papa. Bon. Qu'est-ce que ça peut avoir comme sens ? Ça a le sens, justement, qu'on donne du sens à ce qui a été vécu. Ça veut dire qu'un temps qui peut être juste, qui peut être borné, délimité, peut être plus ou moins long. Et en période de conflit armé, vous savez tous qu'il y a eu un jour le plus long. Ben, c'était celui-là, en fait, primitivement. Le jour le plus long, ça se rapporte à cela. Parce que, quand je vous parlais de l'être aimé, eh bien, c'est important parce que ça qualifie ce qui est vécu ici. Quand on est avec l'être aimé, ça dure très peu de temps. Et quand on est loin de l'être aimé, ça dure très longtemps. Ici, le jour dure très longtemps. Ça veut dire qu'on est tout à fait conscient qu'il n'est pas question d'amour. On est tout à fait conscient de ce qui est vécu est contraire à ce que l'on souhaiterait vivre. Dire que le temps a duré plus que nécessaire, en quelque sorte, que ça a traîné, c'est une façon de dire que ce qui a été vécu est contraire à ce que l'âme aurait souhaité, puisqu'on parlait de l'âme tout à l'heure. On pourrait dire que c'est contraire à l'éthique même. C'est une façon de qualifier ce qui est vécu. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le temps. On s'était dit la première fois, le temps c'est une fiction, le temps c'est une convention. Eh bien, parler de la durée du temps peut donner de la couleur à ce qui est vécu. Quand on dit ça a été trop rapide, c'est que c'était bien. On est frustré, et donc il y a du désir encore. Quand ça dure, ben, c'est que... ce qui est vécu ne correspond plus à ce que l'on espère, à ce que l'on souhaite. Et donc, ce texte, vous voyez, qui offre tous les atours d'un texte extrêmement barbare, s'offre le luxe de dire « ce qui est vécu n'est pas ce qu'il faut vivre ». C'est-à-dire que c'est peut-être un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits de guerre, mais... Ce n'est pas un modèle. C'est pas à ce genre de pratique qu'il faut conformer sa propre existence. Ouais.
Et en fait, le fait que le soleil s'arrête et la lune aussi, c'est comme s'il y avait, presque peut dire, c'est comme s'il y avait une parenthèse, alors pas enchantée, mais terrible, qui est faite de donner justement à ces gens le temps de faire la guerre et l'extermination.
Oui, il y a le phénomène de parenthèse qui est appuyé par cette phrase que j'avais lue. Ça a été un jour unique. Il n'y en avait pas eu comme ça avant, il n'y en aura pas après. C'est fini, voilà. Et ça ne doit plus recommencer, ces affaires-là. Vous voyez, c'est ça que ça signifie. Maintenant, est-ce que le jour a objectivement duré plus longtemps ? Est-ce que c'était un jour de 48 heures, par exemple ? Ce n'est pas ce que laisse entendre le texte. Parce que le texte ne dit pas qu'il y a eu un jour de plus. Le texte dit qu'effectivement, il y a une suspension. Parce que, à la limite, si on voulait aller plus loin dans cette hypothèse de lecture, c'est l'action qui fait le temps. Et si le temps est suspendu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. S'il n'y a plus de temps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'action. Ça veut dire que ce qui est fait là, ça ne relève pas de l'action. Enfin, pour essayer de le dire peut-être sous l'angle de la prédication pour adolescents, c'est pas du boulot ça. Une fois de plus, ça ne relève pas du temps de Dieu. Mais néanmoins, il y a quand même dans le texte le fait que Dieu donne le temps nécessaire pour accomplir. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement positif, c'est lorsque nous disons que nous n'avons pas le temps, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est que soit on n'a pas envie de le faire, soit qu'on ne veut pas le faire, soit qu'on n'a vraiment pas envie de vouloir le faire. Ouais, c'est un peu ça en fait. Bon, il arrive que des fois l'emploi du temps soit saturé. Mais quand on se réfugie derrière le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne relève pas de l'action, du faire. C'est que ça ne nous correspond pas. On sent bien qu'il y a un problème, ouais. Il y a une sorte de hiatus.
Est-il possible de considérer que une interprétation possible serait qu'il y a une victoire militaire, il y a une maîtrise,
oui.
Une victoire politique,
oui.
Et qu'en fait on soit dans quelque chose qui serait, parce qu'il faut quand même revenir plus de 2000 ans en arrière,
oui.
À une époque où la somme des connaissances est ce qu'elle est, en fait c'est une façon de dire il est possible de passer d'un temps subi à un temps contrôlé, parce que ça aussi, il y a le temps qui est complètement subi par ce qui nous arrive encore aujourd'hui dans les circonstances, mais il est possible également de contrôler le temps, qu'en fait, cette victoire militaire, cette maîtrise, c'est aussi un contrôle du temps. Et moi, je suis assez interloqué par le respect, ça ne s'est jamais passé avant, et ça ne se passera jamais plus après. Donc, en fait, c'est-à-dire un passage. Il y aura un déclic qui se ferait tout simplement entre le temps subi et le temps contrôlé.
Ouais. Mais regardez ce qui est quand même frappant, c'est que pour l'auteur biblique, ce qui est spectaculaire, ce qui est extraordinaire, c'est pas que le soleil se soit arrêté, c'est que Dieu ait fait ce qu'un homme lui a demandé. Il est là le miracle pour le texte. Oui. Ah oui, il est au début et à la fin, en fait. Oui, il est extrêmement actif. Et en fait, c'est lui qui est à la manœuvre même, hein, puisque on demande à l'Éternel d'intervenir. Et donc, c'est lui qui a la maîtrise d'eux. Et le côté exceptionnel, effectivement, hein, c'est que l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas sans nous interroger sur la question de la prière, du coup. Bon, mais l'Éternel combattait pour Israël. C'est presque la fin de cet épisode-là. Ensuite, Josué et tout Israël retournent au camp de Gilgal, qui est le premier sanctuaire. Ouais.
C'est vraiment curieux.
Alors à mon avis ça tient je dirais que c'est un peu important quand même parce que c'est ça qui permet de canaliser la violence en fait. C'est-à-dire que si on regarde ce qui précède, à mon avis je vous ai dit tout au départ qu'on était avec un vocabulaire cultuel en fait. Et que se passe-t-il ici en fait ? C'est qu'on parle de lapidation. La lapidation, c'est une codification de la vengeance. C'est-à-dire, pour éviter la vengeance, on met des lois qui tiennent lieu de justice et de droit. Et jeter des pierres, c'est ça. La lapidation, c'est dans des cadres très précis, après un procès, etc. C'est pas sous le coup de la fièvre, etc. Et le fait, comme vous le dites, l'Éternel soit très présent, ça peut nous faire penser à autre chose. Et ça dure un jour. Ça vous fait penser à quelque chose, ça ? Un jour où l'Éternel est très présent ? ceux qui sont des fans de Dreyer et autres, le jour de l'éternel, le jour de colère, le jour de Yahvé. On a ça en Ésaïe 34, verset 2, par exemple, ou alors en Michée 4, 13. Ésaïe 34, verset 2. Approchez-vous, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qui la produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang, etc. Je vous rappelle, hein, comme d'habitude, les livres prophétiques sont toujours en trois phases. Si vous arrêtez la deuxième, c'est fichu. Donc il y a une première phase, c'est la menace. La deuxième phase, c'est l'incertitude. C'est le temps de la libre décision pour chacun. Et la troisième phase, c'est le temps de la restauration, du pardon, de la réconciliation, de la nouvelle chance, etc. Donc souvent, on s'arrête aux menaces en disant c'est épouvantable. Et on ne voit pas qu'il y a une conversion, un changement de comportement qui conduit aussi à « ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, ma loi sera écrite au-dedans d'eux », etc. Donc il faut bien lire les livres prophétiques jusqu'à la fin. Et alors pourquoi c'est important que l'Éternel soit là? C'est parce que on ne peut jamais légitimer ce genre d'acte, en fait. C'est-à-dire que on peut, comme Thomas d'Aquin, considérer qu'il y a des guerres justes. Mais je crois que les textes bibliques nous disent que les guerres sont toujours illégitimes. Illégitime parce que précisément, ce n'est pas nous qui pouvons les légitimer. Et quand c'est Dieu qui conduit la bataille, ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui a trouvé les arguments pour légitimer la bataille.
Alors, ça veut dire qu'il serait au-dessus des lois.
Dieu
oui.
Ouais. Ah oui, alors, c'est ce que dit Antigone.
C'est pas moral.
Non, c'est ce qu'on appelle une suspension téléologique de l'éthique. La suspension théologique de l'éthique, c'est développé par Søren Kierkegaard, c'est de dire qu'à un moment donné, la loi est insuffisante pour nous dire ce qu'il faut faire. Et qu'il y a des causes qui sont supérieures à la loi, qui doivent être défendues parfois contre la loi. C'est-à-dire qu'il est parfois très raisonnable, très juste et même sain d'enfreindre la loi, de ne pas la respecter. Bien sûr qu'on peut prendre quelques conflits armés où il était important de résister, vous voyez. Mais moi je prends un exemple des dramatise tout en général, c'est la circulation routière. L'objectif de la circulation routière, c'est de fluidifier la circulation. Hein, le code de la route, c'est pour fluidifier, qu'il n'y ait pas d'accident, etc. Le code de la route dit, ligne blanche, on ne chevauche même pas. Interdit de franchir, mais on ne peut même pas chevaucher. Imaginons que vous soyez dans une rue, voiture garée en double file, ligne blanche et 70 voitures derrière vous. Deux possibilités. Soit vous dites, c'est interdit de franchir et je reste là. Et du coup, embouteillage monstrueux avec du coup les voies latérales qui sont bloquées, etc. Et donc, le code de la route qui est censé fluidifier la circulation le bloque. Soit je franchis et je respecte l'esprit du code de la route en faisant une infraction.
Non, mais là, ça peut
y avoir des gendarmes qui vous permettent de le faire. Non, quand il n'y a pas de gendarme, voilà. Le gendarme me ferait peur. Oui. Ouais. Mais est-ce que l'éthique, ce n'est pas une visée juste dans des institutions justes? La question de la désobéissance civile se pose quand précisément les institutions ne sont plus justes. Est-ce qu'on pourrait considérer que la société française est devenue une société non démocratique, fondée sur des principes iniques? Non, a priori, tout s'est passé assez convenablement ces dernières années. Donc, une désobéissance civile sur une loi votée par un Parlement, au nom d'une cause supérieure. Si on parle, par exemple, de la question du mariage pour tous, puisque c'est là où il y a eu des réactions de certains élus, c'est quoi le bien supérieur qui serait invoqué par ces personnes-là? Il n'existe pas, en fait. Ce n'est pas un bien supérieur, c'est un bien individuel. C'est l'image de l'élu vis-à-vis de ce que semble être un modèle familial, par exemple. Ce n'est pas un bien supérieur. Mais leur foi, elle ne parle pas de famille, etc. Hein, quand on regarde les textes bibliques, les modèles familiaux, c'est quand même épouvantable, à la limite. Et c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de modèle familial. Donc on ne peut pas invoquer la foi chrétienne, en tout cas, pour justifier un modèle familial contre les autres. Par exemple. C'est-à-dire que... bientôt, il y aura peut-être la question sur les embryons. Là, ça sera dans un autre registre. Mais une fois que quelqu'un a enfreint la règle commune, a enfreint la loi, c'est pas parce qu'on enfreint la loi qu'on est dans son droit. Il y a des infractions qui sont sanctionnées aussi bien par le droit que par la morale. La difficulté, c'est qu'on est souvent... c'est l'histoire qui juge a posteriori. On le voit très souvent. Du coup, sur le plan de l'éthique personnelle, comment ça se joue ? Eh bien, ça se joue dans le dialogue que l'on a entre sa conviction personnelle, une communauté de personnes, et puis les personnes qui sont vraiment en situation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas sur un coup de tête que les choses se font en général. La vérité s'élabore dans un dialogue. Alors, vous allez me dire, effectivement, il y a des dialogues entre gens qui pensent la même chose. Mais dans ce cas-là, on n'est pas dans un dialogue avec l'altérité, en fait. Ici, la désobéissance civile, elle se fait justement face à l'altérité, donc face à celui qui est hors de mon groupe. Dans ce dialogue, il y a quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Et Josué est précisément conduit par l'Éternel, c'est-à-dire, lui, il ne serait pas pris comme ça. Donc il n'est pas justifié par ses actes. C'est ça qu'on appelle justifié par grâce seule, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être conscient de mal faire, mais ce mal que l'on fait, en fait, on ne le fait pas par justification, par auto-justification.
Est-ce que, par exemple, pour aller au bout de mon pensée, ce ne serait pas une justification pour les islamistes ou tous les extrémistes
Mmh.
Il y a une traduction géopolitique importante de se revendiquer d'une théocratie, enfin quelque chose comme ça. C'est comme ça que je lis le texte. C'est car l'Éternel combattait pour Israël.
Oui.
Donc car Allah combattait pour la Palestine.
Oui. On a eu des situations où sur les boucles de ceinture des soldats, il y avait écrit Dieu est avec nous. Et puis on a eu des aumôniers militaires qui ont béni les canons pour qu'ils visent juste aussi. Oui. Mais quand on fait un peu de théologie, on se retrouve là, pour le coup, avec un vrai bug de programmation. C'est que si on est monothéiste, donc un Dieu pour tous, hein, c'est ça que ça signifie, eh bien, on est dans le conflit du deux personnes qui circulent sur deux axes perpendiculaires et qui prient tous les deux leur Dieu pour que le feu soit au vert pour eux. Et il y a un conflit de programmation, là. Eh bien, en théologie, c'est la même chose. Les intégristes, en fait, vivent un bug de programmation. Parce que ça signifie que leur prière d'intégriste entre en conflit avec la prière intégriste du camp d'en face. Donc ça se neutralise. Et donc, ce qui est important aussi par rapport à... Alors ça, c'est par rapport au conflit armé. Par rapport à ce qui est du texte biblique comme d'un cadastre divin. Ben, ça, c'est démenti par le texte lui-même. Je vous le disais, les frontières n'arrêtent pas de bouger. On dit qu'on a... détruit tous les rois de tel coin, et en fait on les retrouve quelques chapitres après. Ce qui montre bien que on ne parle pas d'une disparition manu militari, on parle d'une installation. D'ailleurs, quand on veut voir comment les commentateurs se situent par rapport à la Terre promise, il suffit de voir comment ils appellent le livre de Josué. Les Américains appelaient ça la conquête de la Terre promise. C'est le Far West. Les Anglais, eux, parlaient de settlement, d'installation. Et la façon dont la personne va parler du livre de Josué vous dira en fait ce qu'elle pense de la terre promise. Puis après, on prend le texte et vraiment dans le détail, on voit comment le texte neutralise l'idée que c'est un cadastre divin, donc sans faute, etc., définitivement donné. Puis on voit que, par exemple, les Gabaonites. Vous voyez, les Gabaonites sont les alliés des Israélites. Bizarre, ça. Ben, c'est parce qu'en fait, ils ont fait alliance avec les Israélites. Les ennemis ont fait alliance avec les... Alors, il y a eu une petite ruse en Josué 9, tout ça, mais n'empêche que tous les ennemis ne sont pas détruits. Il y en a même qui... Regardez jusqu'où ça va. Israël combat les Amoréens pour défendre les Gabaonites. Donc, Israël défend des ennemis pour défendre d'autres ennemis. Oui. C'est qu'en fait, il y a des alliances qui se créent et donc ça se reconfigure. Et puis ensuite, la réforme de Théronomiste dont je parlais, elle dit aussi, méfiez-vous, il y a deux réalités derrière le mot Israël, par exemple. Il y a l'Israël en tant que peuple et puis il y a l'Israël en tant que nation. Et dans les textes bibliques, il y a clairement une différence, notamment chapitre 5, versets 2 à 9 du livre de Josué, où la circoncision, c'est ce qui fait passer la nation à l'état de peuple. La nation, c'est ce qui meurt dans le désert, en fait. Voilà. Bon, on s'en tient là pour ce coup-ci.